Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. Bonjour, j'ai rien de spécial à vous dire aujourd'hui, mais j'entre tout de suite dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est, nous allons le voir, quelque chose de très historique. voilà. Alors, on commence. Depuis Noël, disons, 2025, cette émission régulière, presque mensuelle, c'est tous les quatre lundis, comme vous le savez, est axée sur la présidentielle de 2027 et le rôle de la langue nationale dans cette affaire de présidentielle de 2027, le français. Voilà. Alors, la priorité dans ces émissions ainsi orientées vers la présidentielle est accordée normalement à l'invitation, à chaque fois, d'un candidat différent. Ça, c'est l'idéal. Mais deux d'entre eux sont déjà venus. J'en ai quand même déjà eu deux à cette antenne. Difficile de faire venir des candidats à la présidentielle quand on n'est pas dans une grande radio, comment dirais-je, ou dans un grand média, tout à fait d'abord prisé par tous, non marqué politiquement, ou voilà. Il y a toujours un problème. Donc, nous en avons eu deux déjà. Vous savez qui ? Je vais y venir dans un instant. Alors, deux d'entre eux sont déjà venus et ont exposé, dans le sens que nous espérions, parce qu'on leur donnait naturellement des indications, on leur espérait qu'ils se présenteraient de telle et telle façon pour faire telle et telle chose lorsqu'ils seraient élus, s'ils sont élus, et en tout cas comme candidats, parce qu'ils ont déjà quelque chose à faire pour nous, alors qu'ils sont uniquement candidats pour le moment, et c'est très important que tous les candidats le fassent. Qu'est-ce que nous voulons de ces candidats à la présidentielle ? Eh bien, leur faire dire, et les faire s'engager pour une réintronisation absolument nécessaire du français. Et oui, du français en France, une réintronisation. Je vous expliquerai pourquoi. Tout à l'heure, réintronisation, c'est sans doute parce que le français a été sur un trône. Bien. Il l'a été, on va le voir tout de suite. En tout cas, les deux personnes que nous avons déjà eues sont Nicolas Dupont-Aignan, puis David Saforcada. Ils sont engagés tous les deux, à la fois dans leur publication, dans leur programme, et Nicolas Dupont-Aignan, c'était tout simplement son livre qu'il est sorti pour sa candidature, c'est-à-dire « La liberté ou la mort ». « La liberté ou la mort », ça voulait dire pour lui surtout, on sort de l'Union européenne, on se rend libre de l'Union européenne, ou c'est la mort de la France. Voilà. Mais il le décrit très bien, et puis il n'est pas le seul maintenant à le dire. De plus en plus, il y en a qui se hissent, qui se haussent vers cette audace. Alors, et ils le font à la fois dans leur programme, le livre en ce qui concerne RDA, c'est-à-dire NDA, pardon, c'est-à-dire Nicolas Dupont-Aignan, et à notre antenne de Radio Courtoisie. Tous les candidats ont été ainsi saisis depuis le printemps 2025. Nous leur avons envoyé des lettres très argumentées et personnalisées plusieurs fois pour la plupart d'entre eux. Deux autres candidats, bah oui, on en a quatre déjà, quatre qui se sont engagés. Les deux, là, de la façon dont je vous ai indiqué, sont venus à notre antenne. Les autres, non, pas encore en tout cas. Qui sont les deux autres ? Deux autres candidats et non des moindres. Alors le premier, c'est Bruno Retailleau. Eh oui, le président de LR. C'est pas n'importe qui. Enfin, les quatre ne sont pas n'importe qui. David Saforcada est moins connu, mais c'est quand même toute la partie, je dirais, bonapartiste de la France qui cherche à se placer, notamment vis-à-vis de la langue française, dans cette présidentielle. C'est important. Bon, alors, Bruno Retailleau, oui. En fait, ça a commencé par son adjoint. Son adjoint, François-Xavier Bellamy, un monsieur toujours très favorable à nos affaires, qui nous avait répondu dès octobre 2025, une lettre remarquable, une lettre que nous avons gardée et diffusée d'ailleurs, indiquant qu'on était très bien, que c'était absolument, on avait absolument raison, et qu'on allait voir ce que l'on allait voir, et que lorsque le programme de M. Retailleau, le programme de LR pour la présidentielle sortirait, on verrait à ce moment-là que c'est tout à fait ce qui m'est dit dans ma lettre, va se concrétiser. Eh bien, c'est ce qui s'est passé en juin, lorsque Bruno Retailleau a publié son programme, l'a présenté oralement d'une manière très claire. Le deuxième, c'est-à-dire le quatrième en fait, mais le deuxième des non-venus à Radio Courtoisie, c'est M. Jean-Luc Mélenchon. Et oui, rien moins que M. Jean-Luc Mélenchon, président de LFI. Alors, il faut dire que M. Mélenchon est un monsieur très cultivé, très talentueux, on le voit bien, d'ailleurs on voit qu'il grimpe dans les sondages, ça ne veut pas dire que je souhaite son élection, vous l'avez tous compris, mais il est assez remarquable, et en tout cas dans sa culture, eh bien il a un sens très profond de ce que représente pour la France la langue française. Eh oui, eh oui. Alors, il avait déjà, il l'a déjà prouvé depuis son autre candidature en 2017, il était là aussi déjà candidat, en 2017, il a utilisé alors nos arguments, il nous les a même demandés, parce qu'on l'avait, comme tous les autres candidats, saisi, qu'est-ce que vous faites pour le français, c'est important. Enfin, vous imaginez, notre campagne, etc., déjà en 2017, existait. Bien. Eh bien, excusez-moi. La vieillesse m'enroue. Il avait demandé nos arguments, disant, ben voilà, donnez-moi des arguments, des preuves, etc., et je vous fais ça, voilà. Et il nous a fait ça, comme il dit. Et il n'a publié à ses frais, à l'aide de nos arguments qu'il nous avait demandé, que nous lui avions abondamment fournis, naturellement, vous l'imaginez, une charte de la francophonie. Monsieur Mélenchon, une charte de la francophonie. Oui. Alors, cette année, eh bien, son programme proclame la nécessité, il est revenu dessus. Je pensais à un moment, quand je l'ai ressaisi pour cette campagne, je me disais, oh ben oui, maintenant, il, comme tout le monde, un peu, il regarde ailleurs, c'est la France nouvelle, avec tout ce que vous savez, tout ce que vous voyez. Alors, ces vieilles lunes de langue française, etc. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. C'est un monsieur qui est cultivé, comme je vous le disais. Donc, cette année, son programme proclame la nécessité à ses yeux de développer un plan sérieux et novateur, parce qu'il a des idées nouvelles là-dessus, de coopération entre les pays francophones. Alors que ces pays francophones ont été plutôt négligés depuis, j'y reviendrai tout à l'heure, depuis 1974, par les présidents successifs, et surtout par ce qui est venu en 2017, ce qui est venu au pouvoir en 2017, ça a été négligé comme beaucoup d'autres choses françaises, nous allons le voir. Donc voilà, alors peut-être ces deux-là finiront-ils, on l'espère, par accepter de venir au micro de Radio Courtoisie. Après tout, le français est un facteur important de consensus et mon émission, elle est consensuelle. Elle est... J'ai toujours dit quand je suis entré à Radio Courtoisie, attention, j'entre dans cette maison pour parler du français, mais d'une façon, disons, gaulliste, parce que je suis tout simplement gaulliste. Et Radio Courtoisie ne m'en a jamais voulu, ne m'a jamais fait une seule observation sur ce que je pouvais raconter et sur les gens que je pouvais inviter, notamment des gens de gauche. Alors après tout, ceux-là pourraient se dire, tiens, on peut quand même aller chez Salon, à Radio Courtoisie. Enfin, on verra bien. Voilà. Alors nous attendons en tout cas les candidats dits de droite, en dehors de ceux que j'ai mentionnés. Nous attendons les candidats dits de droite, entre guillemets, quelques-uns du bloc central, entre guillemets, là aussi. Quant à l'extrême, là aussi, il faut mettre de gros guillemets en France, c'est extraordinaire d'ailleurs. Hein. Pardon. Gros guillemets à extrême droite, gros guillemets, parce que nous attendons qu'il franchisse un empêchement majeur que normalement une extrême droite bien comprise en France devrait cultiver, mais l'empêchement majeur, c'est qu'ils se sont créés, ils se gardent bien, ils se sont créés un empêchement eux-mêmes, et ils se gardent bien, tenez-vous bien, de paraître hostiles, franchement hostiles, à la mise en cause de l'impérialisme américain. Il ne faut pas, ni pour Zemmour, ni pour Sarah Knafo, qui hésite, mais enfin, mais ni pour Sarah Knafo, ni pour Marine Le Pen et Jordan Bardella, il n'est pas question de toucher à l'impérialisme américain. Voilà. Alors, ils se sont mis cet empêchement pour des raisons qui sont seuls à pouvoir vous expliquer. Moi, je ne pourrais pas le faire. Voilà. Alors, et ça, la mise en cause de l'impérialisme américain, eh bien, c'est encore très peu répandu parmi nos candidats actuels, en dehors naturellement de quelques-uns, et notamment ceux que j'ai cités. Alors que nous avons, j'y reviendrai tout à l'heure, quelque chose de très important, un événement qui s'est produit dans notre pays en faveur de ce que, en gros, les gens de Radio Courtoisie, mais en tout cas les gaullistes qui sont dedans, pensent fortement, c'est que dans la bataille de Gaulle, le réalisateur Antonin Baudry, un monsieur d'ailleurs qui a été haut fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, qui a été directeur général de la plus grande des directions du Quai d'Orsay, qui est celle qui se charge de la promotion du français et de la culture française dans le monde. Voilà. Eh bien, M. Baudry, il a critiqué très vigoureusement l'impérialisme français. Je vous redirai tout à l'heure ce qu'il a dit. Voilà. Donc, ce n'est pas le cas de la plupart de nos candidats, sauf quelques-uns. Alors, on espère gagner les autres. Alors, nous avons décidé, au Conseil, de rassembler tous nos arguments, écoutez bien, tous nos arguments qui ont été distillés dans nos lettres plusieurs fois, pour certaines, au même candidat, parce qu'il fallait le convaincre sur les mois depuis lesquels nous faisons ça, depuis 2025. Nous rassembler donc tous les arguments distillés dans nos lettres aux candidats et d'en tirer un article. Voilà, j'y viens. Un article qui, normalement, devrait pouvoir être accepté dans nos grands médias, c'est ce que nous allons voir, surtout si cet article est proposé par le Haut Conseil dans son ensemble avec les signatures de bien des membres du Haut Conseil. Vous allez voir de quoi il s'agit. Aux grands médias qui sont sensibles à l'oligarchie du pouvoir, on verra comment ils réagiront. Alors, je vais vous lire cet article que plusieurs de nos membres ont approuvé déjà, parce qu'ils ont été consultés tout de suite. Il y en a d'autres, plus généralement, qui ont été consultés. Il y aura une version définitive après tout ça. Mais pour le moment, j'ai l'impression qu'on va vers une approbation de la version actuelle, qui a déjà été modifiée, de cet article. Alors, vous pouvez demander le texte, je l'ai apporté, je vais le donner tout à l'heure au secrétariat. Vous pouvez le demander au secrétariat de Radio Courtoisie. Et vous savez, vous pouvez le demander par courriel, c'est à secrétariat@rc.fr. C'est tout bref, hein. RC, c'est Radio Courtoisie. Bon. secrétariat@rc.fr. Voilà. Vous pouvez le faire par téléphone aussi, évidemment. Bien. Donc, demandez cet article pour vous en servir. J'y reviendrai comment, tout à l'heure, j'y reviendrai. Alors, en somme, vous êtes consulté, vous aussi. Hein, vous pouvez, s'il vous convient, cet article, l'adresser à tel candidat que vous connaissez, à tel proche aussi. Il ne faut pas oublier les proches qui sont influents sur les candidats. Alors, je les ai repérés, je les ai saisis, moi aussi, la plupart des proches qui peuvent exercer une influence sur les candidats pour les amener à comprendre ce que nous essayons de leur faire faire. Parce que ce n'est pas évident, vous allez voir pourquoi ce n'est pas évident, que tout le monde le comprenne, que tous les candidats actuels le comprennent, qui n'ont pas tous la culture de Retailleau ou de Macron, ou des deux premiers, là, ou de Nicolas Dupont-Aignan notamment. Alors, vous pourriez même me demander, alors là je vous donne mon numéro de téléphone à moi, 01 45 32 42 84, l'autorisation d'envoyer cet article à tel journaliste influent. Parce que ce n'est pas encore mûr, ce n'est pas encore la version définitive. Donc il faudrait me demander l'autorisation par téléphone pour être capable de s'en servir utilement. Vous allez constater, en m'écoutant, c'est en fait, c'est ça sa nouveauté et son importance, j'insiste là-dessus, écoutez bien. C'est en fait un éclairage très nouveau sur notre histoire de France et le rôle du français, parce que ça n'a jamais été, ou ça a été très peu, présenté comme ça dans l'enseignement de l'histoire que vous avez eue, que nous avons eue, que j'ai eue moi-même de l'ancien temps dont je suis. Hein, j'ai 91 ans, j'ai eu une bonne histoire de France, mais même dans cette bonne histoire de France, bien enseignée avec ce que vous savez et qu'on n'enseigne plus maintenant, mais déjà à cette époque-là, eh bien, on n'insistait pas trop sur ce que je vous dis, sur ce que je vous dis dans mon article. Ouais. L'histoire de France avec le rôle du français, de la langue. Alors, je crois que l'histoire qui a été enseignée aux adultes et enfants de ce demi-siècle, un demi-siècle, depuis la mort de Pompidou en 1974, et donc l'avènement de Giscard, un fléau par certains côtés, un fléau comme Macron, n'est pas celle que cet article résume. Elle est pourtant indiscutable. Il s'agit de faire oublier, à partir de 1974, dans ce fameux demi-siècle que nous vivons encore, faire oublier la brillante époque, c'est plus qu'une période, c'est une époque, l'époque 1958-74, avec De Gaulle, puis Pompidou, dans ces domaines-là, comme dans d'autres, il fallait faire oublier. Il y a eu une véritable série d'offensives après 1974, pour occulter cette histoire, cette brillante période, époque. Peggy fait la distinction entre époque et période. Vous allez comprendre pourquoi. Période, c'est n'importe quoi. Enfin, qui peut être très bien, mais l'époque, c'est une époque que l'on peut vanter. Une période qui est glorieuse, qui est intéressante à décrire et importante à transmettre. Voilà. Alors, il fallait l'occulter. Eh bien, ça a été occulté vraiment sans faille par d'énormes offensives de l'oligarchie. Cet article du Haut Conseil c'est plutôt une perspective qu'un souhait de le voir publié, bien sûr, c'est un souhait, mais normalement, ça devrait arriver, parce qu'il contient des choses qu'un bon journaliste dont un grand journaliste devrait se dire « Ah oui, ça, il faut quand même que j'en parle. Si je veux être honnête, il faut que je parle de ça. » Parce qu'il remet l'histoire de France à l'endroit dans notre domaine. Alors, si vous pouvez, à partir du 3 au 4 septembre, disons, parce que c'est à ce moment-là que la version définitive sera publiée, le faire publier par vos amis journalistes ne vous gêne. Les membres du Haut Conseil s'emploieront, peut-être dès le 1er septembre, à l'envoyer à de nombreux médias de toutes orientations politiques, en France, au Québec, peut-être aussi ailleurs, mais naturellement en France et au Québec. Je lis, chers auditeurs, le fameux article en question. Le titre, ah ben le titre n'y va pas par quatre chemins, « Réintroniser, ER à la fin, réintroniser la langue française en France, double point d'interrogation. » Et ça commence. La République a remplacé la monarchie de droit divin par les élus du peuple. Lui, le peuple, a gardé l'image d'un pouvoir sur un trône. Avec le régalien dans ce pouvoir, sur le trône, dont le français, facteur d'unification de la France aux diverses langues. Et oui, unification. La France a été faite à coups de sabre, à coups d'épée, à coups de tout ce que vous voulez, de canon. Pas seulement, bien sûr, mais aussi, elle a été faite aussi comme ça, alors que l'Allemagne, il y avait des Allemands qui partaient partout dans l'Allemagne actuelle, avec ses frontières actuelles, ou presque, en dehors du Nord ou là-bas. Voilà. Ou l'Espagne, on parlait quand même en espagnol en Espagne depuis longtemps, bien, mais pas partout en France. Donc il fallait conforter ce qui a été fait soit par la diplomatie, par les traités ou par le sabre, eh bien il fallait conforter ça par une unification culturelle. Une unification de culture, la littérature française a joué d'ailleurs un très grand rôle, mais notamment le français lui-même, la langue. Donc, premier élément de l'article, le français lié, il a été lié, une liaison forte, le français lié quatre siècles avec le trône de France. On ne vous l'a jamais vraiment expliqué, ça. De 1539 à 1974, ça fait plus de quatre siècles, le français a été lié avec le trône de France, quel que fût le régime en place sur ce trône, y compris le révolutionnaire. Voilà. Donc François Ier, après un édit de Louis XII, oui, c'était dit Louis XII, ça ne parle plus, mais c'était un premier essai de faire quelque chose pour le français. On sentait déjà à cette époque-là qu'il le fallait. Rendit le français officiel, donc c'est François Ier qui le fait, en 1539, par l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Vous connaissez maintenant déjà, tout de même, alors qu'on n'en parlait pas dans nos livres d'histoire. L'ordonnance de Villers-Cotterêts était à peine mentionnée rapidement comme quelque chose d'un peu accessoire par rapport à tant d'autres choses plus importantes dans notre histoire à enseigner. Ça, c'est important. C'était minimisé, en quelque sorte. Je continue l'article. Le soin et la promotion de cette langue de l'unification nationale devinrent un axe majeur de politique intérieure, d'abord la politique intérieure, de tous nos régimes, dont le révolutionnaire. Songez à l'abbé Grégoire et à ce qu'il a fait pour développer le français, pour permettre d'avoir ce véhicule partout en France de la pensée politique révolutionnaire. Donc non seulement nos rois, nos empereurs, bien sûr, mais nos révolutionnaires ont apporté beaucoup d'importance à l'action pour le français en France, politique intérieure. Mais, je continue mon article, aussi de politique extérieure. Alors ça, on le sait beaucoup moins. Beaucoup de gens ignorent ça. Mais oui, aussi pour la politique extérieure, c'était important d'avoir le français. Et pourquoi ? Eh bien, j'y viens. Aussi de politique extérieure, deux points. Le traité capitulation, ce n'était pas une capitulation au sens actuel, c'était des chapitres, tout simplement, capitulés. Capitulation entre François Ier, toujours le même François Ier, et Soliman le Magnifique, le grand chef de l'immense empire ottoman alors. Donc, entre François Ier et Soliman le Magnifique, confia à la France l'exclusivité, c'est-à-dire à elle seule, pas à l'Espagne ou à d'autres, de la protection des chrétiens dans tout l'Empire ottoman, soit, et je vous décris l'Empire ottoman de l'époque, c'est pas celui d'aujourd'hui, hein, qui a beaucoup fondu, mais c'était le premier empire du monde. Un très vaste Orient, y compris l'Arabie saoudite, enfin je vous détaille pas, mais un très vaste Orient, une partie de l'Europe du Sud-Est, dont la Grèce, mais oui, et l'Afrique du Nord, dont l'Égypte, simplement hors le Maroc. Ça s'arrêtait à la frontière marocaine. Donc, je reprends mon article. Champ au pluriel, immense au pluriel, ouvert au pluriel, à notre politique pour le français et nos fondamentaux culturels. C'est à ce moment-là que la nécessité religieuse et en même temps culturelle, parce que nos religieux faisaient des écoles françaises, apprenaient le français aux gens qui les apprenaient la religion chrétienne. Voilà, c'est de là qu'est née notre politique culturelle pour le français. Je fais une parenthèse pour passer la parole à notre ami à l'organisation.
1 euro par auditeur, 1 euro par mois. 1 euro peut nous aider, peut nous sauver. L'été est la période la plus difficile de l'année, mais Radio Courtoisie reste fidèlement à vos côtés chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour nous sauver et préserver notre liberté d'expression qui vous est chère, ne nous abandonnez pas maintenant. Avec 1 seul euro, pendant l'été, donnez-nous les moyens de continuer à parler. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
On y va. On y retourne. À l'article. Voilà. Et donc, champ immense ouvert à notre politique extérieure, culturelle et linguistique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, pour la politique extérieure aussi, le français a joué un rôle. Enfin, le souci du français sur le trône français a été majeur. Alors, l'époque, alors la dernière partie de avant 1974, il y a eu l'époque brillante de 58 à 74. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait une apothéose pour le français et nos fondamentaux culturels et notre action pour le français en France et au dehors. En France et au dehors. Puis nos associations purent ensuite faire connaître, faire introduire dans la Constitution. Ça, c'est nos associations qui ont fait ça avec leurs amis parlementaires, bien sûr. Il fallait les amis parlementaires compréhensifs pour le faire, ça a été fait. La langue de la République est le français, c'est nous qui avons fait introduire ça dans la Constitution. Alors, deuxième partie de mon article, je développe, mais c'est un article court, en fait, concentré. Pour ça que je suis obligé de développer un petit peu pour vous. Deuxième partie, sur les quatre. La rupture de 1974, comprendre ça aussi. La rupture de 1974, une rupture énorme. La rupture de 1974 ouvrit 53 ans, c'est-à-dire pour aller jusqu'en 2027, 53 ans d'offensive au pluriel de l'oligarchie mondialiste pour détacher, je pèse mes mots, mais c'est la réalité avérée, pour détacher les Français de leur nation et de sa langue sur le trône. Ce fut par une première conférence de presse, moitié en anglais. Tiens, un signal linguistique que quelque chose de nouveau arrivait. Mais oui, maintenant on met l'anglais, les gars. Ce fut par une première conférence de presse, moitié en anglais, que le président Giscard d'Estaing donna le signal, un signal linguistique d'ouverture d'un demi-siècle néfaste. Pourquoi néfaste? Eh bien, je vais vous le dire. D'abord, ça a marqué, nous sommes en plein dedans encore, il faut le savoir, nous en souffrons actuellement. Le un demi-siècle donc de primat, je lis mon article, donné à l'économie et aux finances sur le politique et le culturel. Ensuite, pas seulement ce primat donné à l'économie et aux finances, l'hypnose du réendettement et de resoumission au système, système de l'oligarchie mondiale, qui est partiellement française, bien sûr. C'est d'abord les Français qui en sont responsables dans cette oligarchie. Les Français, d'abord, toujours, le parti de l'étranger. Ce n'est pas nouveau dans notre histoire. Bien. L'hypnose, donc, du réendettement. De Gaulle nous avait enlevé toutes les dettes, rapidement, à partir de 1958. En un an ou deux ou trois, il n'y avait plus de dettes. Que dirions-nous maintenant avec 3 500 milliards de dettes? On est au fond du trou à l'heure actuelle. Bien. Donc, hypnose du réendettement et de la resoumission au système. Et troisième point important, ça va tout ensemble, bien sûr, tout ça. Tout ensemble. Le primal. Le réendettement et la resoumission au système et la revassalisation de la France à l'Empire américain. Revassalisation de la France. M. Glucksmann, depuis hier soir président, candidat à la présidence de la République, déclaré, appelle ça être la serpillière de l'Empire américain. Voilà. Donc lui, il a compris ça au moins. Alors, d'abandon, ça veut dire que je ne veux pas dire qu'on votera pour lui, hein, mais voilà. Il faut le savoir, c'est notre histoire de France actuelle, ça. Alors ensuite, dans ce demi-siècle fatal, d'abandon de l'Afrique francophone aux grands prédateurs, nous avons constaté qu'il y a plusieurs États de la francophonie très actifs pour la francophonie, dont le Mali, dont le Sénégal. Le Sénégal, il n'a pas tout à fait abandonné, mais il se sent s'y préparer. Mais le Mali, le Burkina Faso, j'ai été au ministère de la Coopération pendant des années, le Burkina Faso était notre, comment dirais-je, État africain modèle pour l'aide au développement, pour l'utilisation de l'aide au développement, le Burkina Faso. Bien. Eh bien, sont sortis de l'ensemble francophone. Alors, laisser faire ça, abandonner, ça ne veut pas dire qu'il fallait envoyer l'armée, bien sûr, hein, mais être, comment dirais-je, incapable, ou être indifférent, ou être même complice de ce qui s'est passé à leur époque, c'était le cas de notre gouvernement, Macron en tout cas, dans les 10 dernières années. Et période aussi de flottement gouvernemental sur la Nouvelle-Calédonie et d'autres territoires d'outre-mer. C'est grave ce qui se passe. Voire de la Corse. Demi-siècle donc d'affaissement français qui s'achève à partir de 2017 par 10 années. Alors là, ça a été le pompon, si j'ose dire. Ça a été l'apothéose de la destruction de l'affaissement français. À partir 2017, je relis donc mon texte, par 10 années de démantèlement, entre parenthèses, Union européenne, JO de Paris, les Jeux officiels, hein, les occasions de grandes attaques du français, le grand abandon du français, démantèlement donc volontaire et organisé du français au profit de l'anglais. Notre Haut Conseil international de la langue française et de la francophonie, de 39 associations pour le français, comprend 39 associations pour le français, et de 200 personnalités très importante. Il y a des ministres dedans, d'anciens ministres, y compris Toubon, avec qui nous avions justement écrit. D'abord, c'était nous, puis ensuite, ça a été lui, mais on l'a fait ensemble avec son cabinet, la loi Toubon de 1994. Eh bien, y compris M. Toubon fait partie des anciens ministres qui sont membres de notre Haut Conseil pour la langue française et la francophonie. Voilà. Il y a des députés de divers horizons. Il y a le prince Murat, du côté des bonapartistes. Il y a des gens du côté royaliste, du côté des candidats à la royauté en France. Il y a aussi, mais actifs, très actifs, dans ces 200 personnalités. Alors, notre Haut Conseil unanime le dénonça. Unanime moins une voix, hein, pour être honnête. Il a manqué une voix parmi les 200 pour approuver soit tacitement, soit j'y viens. Parmi eux, il y en a quand même eu 51 signataires de notre lettre qui a été qui nous a valu des ennuis, bien sûr, comme vous l'imaginez, notre lettre au président de la République du 2 septembre 2024. Il y avait dedans, en termes très polis et diplomatiques, rassurez-vous, mais il y avait tout de même les mots « forfaiture » et « trahison ». Trahison. Eh bien, sur les 200 personnalités moins une qui ont approuvé au moins tacitement, il y en avait 51 personnalités dont des présidents d'associations, des 39 dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont signé notre lettre. Voilà. Je reprends la lecture, ça ira plus vite maintenant. Pour saper la France, c'est presque une conclusion et une conclusion navrée. Pour saper la France, il suffit, au bon niveau, d'attaquer sa langue. Troisième partie, la réintronisation. Voilà. Alors là, ça ira plus vite parce que c'est plus simple. Ce qui se passe pour la réintronisation, le signal linguistique à donner maintenant, parce que nous pensons qu'à partir des signaux linguistiques jusqu'à présent donnés, eh bien, il faut ajouter le signal linguistique de la réintronisation du français. Signal à quoi ? Signal à donner au sursaut général français espéré en 2027 dans tous les domaines économiques, financiers, politiques, culturels, etc. Voilà. Le sursaut français de 2027. Eh bien, il faut en donner le signal. C'est ce que nous demandons à nos candidats à la présidentielle de faire dans leur programme, etc. Et vous avez vu que j'y croyais pas trop au début. Mais maintenant, je vous ai montré tout à l'heure qu'il y en a déjà 4 et non des moindres. Et j'espère bien qu'il y en aura d'autres, y compris avec votre aide. J'y reviens tout à l'heure à votre aide. Voilà, je relis, enfin je continue à lire plus exactement. Le peuple, en pleine conscience du désastre, bah oui, parce que maintenant ils commencent à comprendre, ils ont mis le temps. Le peuple, en pleine conscience du désastre, gronde, c'est un premier élément. Le vent tourne. Je cite la phrase que nous chantions. Moi, lorsque j'étais petit, je chantais ça. « Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ?» Une résistance croît maintenant aussi. Des interventions médiatiques prisées remobilisent pour le français nos fondamentaux. S'étend aussi, s'étend, s'apostrophe et étend, du verbe étendre, s'étend aussi l'audience des ouvrages et programmes des Michel Onfray, Natacha Polony. Lisez son livre, La France corps et âme. Lisez-le, c'est un véritable programme culturel, un véritable programme, pardon, de candidats sur le culturel et sur le français. Lisez le livre de Natacha Polony, La France corps et âme. Bon, mais aussi Hubert Védrine, et oui, on ne l'attendait pas dans ce genre de choses. Mais Hubert Védrine fait une chose de fond qui s'appelle « Une vision du monde », dans laquelle il critique la vision dominante en France à l'heure actuelle, dans ce demi-siècle que je vous décrivais il y a un instant. Et il dit comment en sortir. Voilà. Philippe de Villiers, ben évidemment Philippe de Villiers, bien sûr, « Le populicide », son livre, et ce qu'il a proclamé plusieurs fois à l'antenne, pas de Radio Courtoisie, il n'y est pas venu chez moi en tout cas, mais de bien des médias, il dit, il crie, refrancisation ou la mort. Refrancisation, ça veut dire quoi? Sinon, qu'il faut se remettre aussi, réintroniser le français. Et puis, il y a aussi les candidats souverainistes. François Asselineau, il n'insiste pas encore assez sur le français et les fondamentaux. Il insiste beaucoup, surtout, sur la sortie de l'Union européenne. Mais enfin, il est là, lui aussi. Il est là pour aller dans le même sens. Monsieur Philippot, moins nettement, mais Monsieur Philippot. Et Bruno Retailleau, alors là, oui, il voit d'ailleurs, en relevant l'importance du français pour tout ça, il voit, lui, un moment gaullien. Et deux des candidats, messieurs Mélenchon et Saforcada, travaillent à de grands projets de coopération active entre pays francophones, avec des idées nouvelles, comme je vous l'ai commenté tout à l'heure. Voilà. Alors, la suite de l'article, espoir, en gros, en capital, espoir, point d'interrogation. Et alors j'arrive ici à quelque chose d'important. Les deux parties, du film Événement, la bataille de Gaulle, bien accueillie par la critique, les critiques de cinéma en général, et oui, ils ont tous été, enfin pas été unanimes vraiment, mais ils sont tous allés en gros dans le même sens. Louangeur, laudatif, ont dépassé les 5 millions de spectateurs en moins de 3 mois d'été. C'est énorme quand on y pense, surtout en été où les gens vont peu au cinéma. Alors vous me direz, il y a eu les canicules. Donc pendant 2h40 que durait le film, moi je suis allé le voir plusieurs fois, eh bien, on était au moins au frais. D'accord. Enfin, tout de même, l'été, en plein été, un tel succès, 5 millions de téléspectateurs, et c'est pas fini. Je suis allé voir en passant devant mon cinéma, je suis allé leur demander hier s'il y avait encore autant de monde ou presque qu'au début. Ah, ils me disent, oh, bah oui, on en a au moins 30 par séance. Et oui. Son réalisateur, donc, M. Antonin Baudry, dirigea au Quai d'Orsay, je l'ai dit tout à l'heure, donc je passe. Il a eu l'audace, et là je précise, de nous rappeler qu'en 1944, de Gaulle put de justesse, c'est important ça, important à l'heure actuelle, parce que tout ça, tout le monde nous le cachait. Tout ce que les Américains ont fait, on nous l'a largement caché, surtout dans ce fameux demi-siècle depuis 1974. Écoutez, empêcher les Américains d'amputer notre territoire d'un tiers, ce que de Gaulle put de justesse, hein, le reste étant sous Amgott, c'était l'administration américaine de la France, qui restait de la France, le reste étant sous Amgott et monnaie d'occupation, qu'on a distribué très vite, de Gaulle a vite réagi et rendu nul cette distribution de monnaie qui n'avait même pas le mot France ou le mot République française dessus, sur les billets, avec nos provinces administrées par leurs gouverneurs. La torpeur de notre déclin tranquille depuis 1974 est heureusement en train de céder aujourd'hui à des vents plus vifs. Dernière partie rapide. Réintronisation par programme de candidats et médias, c'est en gros ce que nous faisons, mais vous le savez, hein, très juste. Je lis vite. Le Haut Conseil en lutte contre le deuxième grand remplacement. Oui, le deuxième grand remplacement, l'autre, vous le connaissez, mais le deuxième grand remplacement, le premier, donc le deuxième grand remplacement, c'est celui du français par l'anglais, présente au Parlement une nouvelle loi tout bon renforcée. Il s'emploie aussi depuis 2025 par publication et lettres personnalisées à tous les candidats 2027 à ce qu'il s'engage à réintroniser le français. Vous le savez. Et nous avons les engagements fermes de messieurs Dupont-Aignan, Saffort-Cadart, Retailleau, Mélenchon. D'autres vont suivre, que des médias et vous amènent à se joindre au mouvement vigoureux. Oui, il va falloir vous en charger vous aussi. Monsieur, voilà, j'en ai terminé. C'est, après, il y a ma signature et un début de signalement de gens qui ont commencé à soutenir tout ça. Voilà, alors écoutez, je vous ai dit en gros ce que vous pouviez en faire tout à l'heure de tout cela. Hein. Eh bien, faites-le au maximum, je vous en prie, c'est une œuvre de salut public. Voilà, alors pour nous distraire un peu, et j'allais jusqu'à la fin de notre... je vous ai mis quelque chose sur le bon usage de la langue française. Hein. Il faut y revenir de temps en temps, et même le plus souvent possible, parce que c'est aussi pour ça que des gens se sont mis à écouter mon émission au moment où je l'ai reprise de mon prédécesseur, de ma prédécesseur, il y a maintenant 23 ans. Alors, je cite là quelque chose de Anne Roumanoff. C'est drôle, vous verrez. Sur la langue française, pour ceux qui aiment bien. Alors, Anne Roumanoff, pour ceux qui aiment bien, manie bien la langue française, si c'est vraiment elle qui l'a dit. Alors, je cite, je ne cite pas tout ce qu'elle a fait, mais vous allez voir. Mieux vaut, c'est assez drôle, pas toujours complètement drôle, mais c'est assez drôle. Mieux vaut être une vraie croyante qu'une fausse sceptique. Vous avez fait le lien entre les deux orthographes de sceptique. Voilà. Une lesbienne qui n'a pas de sein, c'est une homoplate. Le problème au Moyen-Orient, c'est qu'ils ont mis le charia avant l'hébreu. Pas avant les bœufs, avant l'hébreu. Un milliardaire change de Ferrari tous les jours, c'est-à-dire de belles voitures, et un SDF, sans domicile fixe, change de Porsche, lui, de Porsche, avec le sens, le double sens du mot Porsche, la double orthographe, tous les soirs, change de Porsche tous les soirs. J'ai l'intention de vivre éternellement. Pour le moment, tout se passe comme prévu. Je me demande si, à moyen terme, le changement climatique finit par avoir des conséquences irréversibles sur les pizzas quatre saisons. Ouais, bon, ça c'est son humour. Comme dirait Dracula, j'irai bien boire un coup. Un coup, C-O-U, sans P. Comme dirait Dracula, j'irai bien boire un coup. Et vous qui aimez les t-shirts d'une certaine marque, quand un crocodile voit une femelle, il l'accoste. Dieu a crié l'homme 10 minutes avant la femme pour qu'il ait le temps d'en placer une. Ah oui, 10 minutes, c'est déjà ça. Que celui qui n'a jamais bu me jette la première bière. Bière, pas pierre. Je déteste qu'on essaie de me faire passer pour un con. J'y arrive très bien tout seul. Ensuite, DSK. Ah oui, DSK. DSK, c'était cet ancien candidat à la présidence qui s'est fait piéger par une bonne qu'il a voulu violer. DSK sera désormais vigile au FMI. Il va monter la garde. La garde, Madame Lagarde, c'est la patronne du FMI, pour ceux qui l'ignoreraient encore. Ma femme me traite comme un dieu. Elle oublie totalement mon existence, sauf quand elle a besoin de moi. Soyez gentil avec vos enfants, ayez toujours à l'esprit que ce sont eux qui choisiront votre maison de retraite. Le mec qui a convaincu les aveugles de porter des lunettes de soleil est quand même un excellent commercial. À l'école, on apprend aux enfants le passé simple Il ferait mieux de leur apprendre le futur. Voilà. Bon, maintenant, quelque chose de sérieux hein, dans cette défense du français. Quelque chose de sérieux, ben oui, un petit peu d'application du participe passé, de conjugaison du participe passé et d'écriture. Une phrase correcte. Une phrase correcte, et vous allez voir des phrases incorrectes qui sont des sortes d'imitations de la phrase correcte sans l'être. Ils se sont laissés aller, laisser avec un S, aller c'est le verbe aller, à l'infinitif, ils se sont laissés aller, mais ils ne se sont pas laissés faire. Laisser et accent aigu, sans S. Eh ben oui. Alors que beaucoup de gens mettent un S à « ils ne se sont pas laissés faire ». Pourquoi ? Eh bien, écoutez, dans la première phrase, « ils se sont laissés aller », quel est le complément pour que l'accord soit fait avec « laisser » ? Ce n'est pas « aller » qui vient après. Vous savez qu'on fait l'accord lorsque le complément d'objet direct est d'objet direct, pas indirect. L'objet direct précède le participe passé. Ils se sont laissés aller, aller qui est après, signale qu'il faut que l'accord soit fait avec ce qui précède. Quel complément d'objet direct précède laisser, le participe passé, dans ils se sont laissés? Eh bien, c'est ce, bien sûr, c'est le pronom. Ce, ça veut dire, et ils sont plusieurs, donc ils se sont laissés avec un S. Ils au pluriel, donc ce, le réflectif, ils se sont laissés, et S, aller. Et dans la première phrase, et dans la deuxième phrase, mais ils ne se sont pas laissés faire. Où est le complément d'objet direct ? Il n'y a pas de complément d'objet direct. Il y a un complément qui est un verbe. Ce n'est pas un nom. C'est pas un... Voilà. Ils ne se sont pas laissés faire. Faire et laisser après. Et donc, il n'y a pas avant de vrai complément d'objet direct. Le « ce » qui existe avant, ils ne se sont pas laissés faire, c'est tout à fait différent de la première phrase. Le faire est après. Alors, une phrase imitant, enfin voulant imiter, mais fausse, voulant imiter cette bonne distinction, mais fausse. Ces gens, de jeunes étudiants, mais aussi des personnes d'âge mûr, ne se sont pas laissés impressionner par la campagne pro-américaine, etc. Ben oui, et dans cette phrase-là, c'était un journal, Le Monde, figurez-vous, ils ont mis « laisser » avec un S. Ils ne se sont pas laissés impressionner. Eh bien, c'est comme « laisser faire ». Impressionner est après, on ne met pas d'S à laisser. Voilà, je crois que c'est clair. Ensuite, Charles et Raymond, se sont laissés glisser sur la pente. Eh bien oui, laisser glisser, c'est une action accomplie par Charles et Raymond, sujet de la phrase. Par conséquent, laisser, avec un S, prend la marque du pluriel. Voilà. Mais on n'accordera pas ce participe passé dans la phrase « nos ennemis se sont laissés vaincre sans résistance ». Parce que vaincre est après laisser. Ni dans la citation reproduite ci-dessus, ces gens ne se sont pas laissés impressionner parce que vaincre et impressionner ne peuvent être attribués à nos ennemis non plus qu'à ces gens, sujet des phrases considérées. En effet, ce sont eux qui furent vaincus, eux qui risquaient d'être impressionnés. Qui a vaincu ? Ce ne sont pas nos ennemis. Qui a impressionné ? Ce sont ces gens. Donc l'essai ne s'accorde pas. Qui a glissé? Charles et Raymond. Donc l'essai s'accorde. Voilà, ben, écoutez, ça suffit maintenant. Je crois que j'ai rempli. C'est ça, c'est terminé. Eh bien, écoutez, c'est dommage, j'avais d'autres choses drôles à vous donner. Mais j'ai été un peu long dans la première grande partie. Mais j'espère vous avoir fait passer un message utile d'histoire. D'histoire et donc de nécessité de résistance, chers auditeurs. Merci à notre accompagnateur d'aujourd'hui. Merci à vous tous d'être venus et à bientôt.
Vous venez d'entendre Le Français en partage, dirigé par Albert Salon, diffusé en direct aujourd'hui, ce lundi 24 août 2026, sur Radio Courtoisie de 10h à 11h et réalisé par Michael. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.